Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes mollusques adorables, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien dans ma vie en ce moment. Je suis heureuse, stressée mais heureuse, de nombreuses sources d'angoisse mais aussi de joie. Je vais pouvoir un peu lever le pied sur le spectacle. Après la fin de l'exploitation parisienne, je suis allée au bout des grosses dernières dates de tournée pour la saison. La toute dernière avant l'été est le 3 juin à Lyon. C'était super de finir par la Belgique. J'ai rencontré une auditrice à Liège qui m'a dit qu'elle était inquiète pour moi, enfin que ça avait l'air compliqué ma paperasse. Elle faisait référence à l'intro de l'épisode avec Jarry quand je parlais du FIA, du CNC. Je vous donne pas trop de nouvelles de mes projets d'écriture audiovisuelle car c'est très long à développer et je préfère vous annoncer les choses quand elles sont imminentes. Comme là, mon tournage en tant que comédienne tout le mois de mai pour un long métrage d'Edouard Pluvieux, donc je vous en ai parlé avec Maxime Gasteuil, Zabou Breitman, Lionel Abelansky, Chantal Lobby et Esteban. 13 jours pour aller mieux, une comédie se déroulant dans un stage de développement personnel. Et mon personnage va faire des découvertes fondamentales sur elle-même. Ce qui est génial, c'est que j'ai même pas eu à passer de casting pour ce rôle. Edouard et les producteurs sont venus me voir au théâtre, dans mon spectacle. Et c'est vraiment mon objectif de vie, ne plus passer de casting. Et que ma carte de visite de comédienne soit le spectacle et basta. Et toutes les vidéos, le contenu que je mets en ligne sur Insta, etc. Je crois qu'il va faire très beau à Angoulême et j'ai hâte de soleil. J'adore dormir dans des hôtels, des beaux hôtels. Je n'en suis que plus contente de retrouver mon chez-moi à Bagnolet. Ça me change, c'est des aventures. L'aventure d'aujourd'hui est avec Jesse, comédien humoriste, que vous pouvez voir dans son spectacle Message Personnel au Théâtre du Marais jusqu'à fin juin, les jeudis et vendredis à 21h. Vous allez prendre la discussion au début, nous parlons de notre week-end. Il est en train de me raconter comment il s'est retrouvé à rouler des pelles en boîte à un hétéro curieux. Je vous laisse découvrir. Bonne écoute!
Et du coup, il commence à me rouler une pelle. Sauf qu'on était avec des potes qui connaissent sa meuf. Et, donc, et une pote un peu relou qui est en mode...
Arrête.
Ça suffit là, c'est bon.
Stop.
Moi, j'étais évidemment plus là. J'avais un œil à Toulouse, un œil à Brest.
Bien.
Donc, ah ouais, incroyable. Et à un moment, il me dit, il me dans l'oreille, tu sais, moi, je suis un peu soumis. Hein.
Oh
putain, j'étais comme ça.
Mais il est gay.
Bah, après, il me dit, non, mais faut qu'il fasse son coming out.
Bien sûr, au moins.
Donc, je lui ai mis un doigt sur la piste.
Et oh là là, tu l'as mis un doigt sur la piste de danse.
Après, j'ai un peu regretté, j'étais là, waouh, c'est. C'est un peu violent quand même.
Bah, le pauvre, il s'y attendait pas.
Bah ouais, enfin, il a un peu demandé quand même.
Il a un peu demandé, ouais, ah ouais.
Il était en mode, vas-y, tu peux me toucher.
Et ça sentait un peu le caca.
Pas le caca, mais c'était la fin de soirée quoi.
Ouais, un peu de sueur salée.
Ça m'a pas dérangé plus que ça. Il était vraiment beau.
Wow.
Et il embrasse très bien. Mais moi, j'aime pas les soumis. Enfin, j'ai plutôt envie d'être le soumis, tu vois.
Du coup,
ça va quand en soirée, j'étais un peu, j'ai un peu genre pris la nuque et tout. Ouais. Mais
attends, mais j'ai une question pour toi. Comment, moi, ça y est, j'ai envie de mettre des doigts dans les anus des mecs.
Ouais.
Je l'ai jamais encore fait.
Je suis obligée de mettre le casque ?
Non, pas du tout.
Parce que ça me fait une réverbe.
Ah ouais, non, t'embête pas. J'ai envie de mettre des doigts dans les anus des mecs, mais j'ai toujours pour le moment tournicoté autour.
Ouais. Ton mec, là, il est plutôt pour ou contre ?
La personne que potentiellement j'ai pu voir ces derniers temps serait complètement pour.
Ok.
Je pense qu'il s'en est déjà pris.
Ok. Vraiment la personne dont je ne suis pas du tout attaché en ce moment. Vraiment. Enfin, c'est pas du tout mon mec, en fait.
Putain, je sais pas si. Mais en tout cas, l'épisode sortira, je me serais fait lourder comme une grosse merde. Écoute, actuellement, il est possible qu'il y ait quelqu'un que je vois. Et donc, lui, je pense qu'il aime bien les petits wads.
Enfin. Toi, dans tes expériences passées, dans celle-là, t'as déjà...
Jamais. Je crois que j'ai dû, genre, peut-être m'approcher, lécher. Mmh. J'ai eu pu avoir des demandes, mais ensuite, les mecs sont...
Après, t'as des ongles, hein. Faut faire gaffe. Hein.
Ah oui.
Ah bah ouais, ça, c'est important.
Mais oui, c'est vrai qu'ils sont un peu longs. Ça, griffe.
Terrible.
Terrible. Ah, il faut les couper.
Moi, je me souviens d'une fois un mec qui se rongeait les ongles. Mmh. Et tu sais, parfois, quand tu te ronges les ongles, t'as un peu...
Ah oui, les petits bouts
pointus.
Des
petits bouts que t'as mal rongés, tu vois. Et bah, ça m'a ouvert.
Oh, merde.
Ça m'a ouvert. Oh. Tu te rends compte? C'est hyper sensible.
Ah, c'est hyper sensible.
Ouais, et puis, c'est pas agréable, hein, du coup. Après, ça met très longtemps à cicatriser.
Ah, putain, ouais.
Parce que dès que tu vas aux toilettes, ça se rouvre.
Ah oui, oui, oui. Mmh. Mais c'est bizarre parce que même là, en baisant, j'ai rien fait avec mon cul, mais je crois que j'ai juste trop écarté les jambes. Genre, j'ai mal en haut de l'anus.
Faut faire attention, ouais.
Ouais.
Si parfois c'est trop violent, il t'écarte trop vite les fesses.
Voilà.
Ou que t'as parfois aussi l'alimentation, le manque.
Ouais. Le manque de.
Bah, je veux pas dire de conneries.
Quelque chose.
Le manque de quelque chose fait que tu peux avoir des fissures anales.
Là, ouais, j'ai une petite fissure anale.
Extérieure ou
intérieure? Extérieure.
Ouais, ça
en
va.
En haut, genre coccyx,
ouais.
Quoi.
Ouais.
Alors que je me suis même pas fait sodomiser.
C'est con quand même.
C'est con.
Moi, j'ai fini à l'hôpital une fois, moi.
Non.
Bien sûr. Bien sûr, il avait un sexe énormissime. Et c'était le début de ma sexualité, donc j'étais en mode, allez, on y va, c'est parti, pas de lubrifiant et tout.
Alors que le crachat, ça suffit pas.
Et en plus, il m'avait même pas mis de doigts, rien du tout.
Vraiment, juste direct la bite.
Direct la bite, puis vraiment comme ça.
Oh,
au début, ça fait pas mal, faut savoir, une fissure.
Okay.
Tu le sens pas tout de suite, en fait. Donc on a fait l'amour, c'était très bien, bravo. Et ensuite, je rentre chez moi et... Un peu comme ça me grattait. Un peu comme quand t'as des vers solitaires. Enfin, j'en ai jamais eu, mais j'imagine que ça gratte. J'imagine que ça gratte. C'est des amis qui en ont eu qui m'ont raconté, en fait. et donc ça me gratte et tout. Puis je vais aux toilettes, ça me fait un peu mal. Puis je m'essuie, putain, plein de sang sur le papier toilette. Ça, c'est impressionnant. Hein. Tu te dis que ta vie va prendre fin.
Oh, mon Dieu.
Et là, je dis, waouh, c'est bizarre. Je me couche. Très mauvaise nuit, ça arrête pas de me gratter. Ah. Le lendemain, je vais aux toilettes, là, un mal de chien.
Oh là là.
Et en fait, j'ai appelé SOS Médecin,
bah ouais,
qui est venu et ils m'ont donné des anti-inflammatoires,
ouais,
alors que c'est le pire.
Oh
ouais,
putain, des homophobes.
J'ai failli y passer.
Crime homophobe.
Je te jure. Et du coup, je les prends et en fait, ça compte. Ça a comme mis du charbon dans une chaudière. Et donc, j'ai dû aller à l'hôpital parce qu'en fait, ça allait s'infecter, ça allait faire un abcès. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Donc, je suis resté 2 jours et j'avais une énorme fissure anale qui était infectée.
Non, mais l'autre, le con, il n'aurait pas dû rentrer comme ça.
Non, mais attends, j'y suis pour quelque chose aussi. Hein. Après, je l'ai croisé souvent.
You asked for it.
Ouais. I begged for it. je l'ai croisé souvent et à chaque fois, il s'excusait. J'étais là, non, mais t'inquiète, c'est bon, c'est 3 ans après. Je suis vraiment désolé de t'avoir cassé le cul. Je me dis, t'inquiète, il y en a d'autres qui sont passés depuis.
Il faut bien se le faire casser une fois.
Ouais. Et depuis, par contre, j'ai une sensibilité du coup.
Ah, plus aiguë.
Ouais.
Ah ouais, il faut y aller mollo.
Ouais.
Et c'était ma question, c'était, ok, pour toutes les meufs qui veulent mettre un doigt à leur gars pour commencer, donc déjà se couper les ongles.
Ouais.
Et ensuite, est-ce qu'on y commencerait pas avec un peu de lubrifiant?
Si, non mais le lubrifiant, c'est la base.
Voilà.
Vraiment, c'est le lubrifiant. D'ailleurs, t'as des lubrifiants. Il faut plutôt prendre des lubrifiants un peu en j'ai envie de dire en latex, mais c'est pas vraiment ça. C'est une matière...
silicone ?
Ouais, exactement, merci. Ouais. En silicone,
ouais.
Donc sans eau. Parce qu'en fait, l'eau, elle sèche au bout d'un moment et ça devient un peu rugueux.
Okay.
Alors que le silicone, non. Et du coup, pour l'anal, en fait, plus il y a de friction,
okay,
plus les mauvais lubrifiants vont sécher et du coup, vont créer... Ça va se... Ça va frotter.
Ah.
Alors que le silicone, non, ça va continuer de glisser. Et c'est vraiment bien.
Ok, lubrifiant, ouais, en silicone.
Et franchement, y aller vraiment, mettez-en le plus possible, c'est pas grave.
Plein, pas avoir peur.
Ouais, faut pas être radin en lubrifiant.
Et donc, je peux...
Et commencer par ce doigt-là. Enfin,
celui à côté du pouce, l'index. Ah ouais, mais il est gros. Tu commencerais pas par le petit doigt?
Non, parce que tu vas voir, c'est mal positionné. Alors que l'index, ça a une mobilité plus. Tu peux vraiment faire comme ça. Et comme le point G, quand tu recourbes un peu l'index...
Ouais, alors attends, je recourbe... Attends,
vers toi. Tu montres, ton doigt, il montre vers toi. Tu vois, comme ça.
Attends, il y a sa bite.
Ouais. En gros, le mec, imaginons qu'il est sur le dos.
Ouais.
Je mime en même temps, les gens peuvent pas voir. Je mime en même temps.
Ouais,
en mettre,
d'accord.
Comme si t'étais chez la gynéco, quoi.
Voilà,
le mec. Je vais souvent chez la gynéco. et là, donc le mec est comme ça, toi t'es en face.
D'accord.
Tu lui mets un doigt comme ça.
D'accord,
comme ça,
ok.
Et tu remontes comme ça.
D'accord.
Vers son nombril, tu
Mais je crois que c'est comme les meufs.
Et c'est là où tu trouves son point G.
D'accord.
Et le point G, il est pas loin. Hein.
Ah,
le point G, tu mets 2 phalanges, allez, 2,5.
2,5,
ouais. Tu le trouves, hein.
Ok.
Ouais.
Ouais, mais quand même 2 phalanges. Attends, faut que ça rentre. Pour un gars hétéro qui s'est jamais pris, qui s'est que pris des petits tournicotis.
Ouais, ouais.
Et d'accord. Et en même temps, tu le suces. Et en même temps, il faut faire un truc avec les couilles ou pas?
Pff, Bah, après, t'as, c'est les trois doigts là qui restent, ouais, avec le pouce.
Tu peux masser.
Tu peux malaxer. Et ça, vu que t'as mis plein de lubrifiants, ouais, ça glisse,
c'est
ils
agréable.
Adorent. Et tu peux le sucer. Moi, ouais, je sais que, ouais, franchement, tu me mets une bite dans la bouche, ouais, et un doigt dans le cul, c'est comme, ouais, dirait Blanche, l'autoroute du kiff. Donc,
ouais. Bah ouais. Et ensuite, il faut faire les deux en même temps. Est-ce, ouais, que toi, tu fais des massages prostatiques en même temps?
Bah alors, je suis pas très douée pour ça. Mais en fait, hein, il suffit de tourner, ouais, je crois. Voilà. Le long, ouais, c'est bon. Ouais, de toute façon, c'est, tu fais pas payer, donc ouais, c'est pas professionnel. Hein.
Ça va, c'est gratuit. Hein. Si t'es pas content, va en Thaïlande. Oups. Attends, je t'écris un petit poème.
Ah oui.
Passons à un peu de poésie. Un peu de... Jesse. Notre première rencontre eut lieu au Barbès Comedy Club et tout de suite un feeling en loge, une complicité immédiate qui est aussi palpable à la scène car nos styles, nos goûts en matière de stand-up sont assez similaires et j'aime aussi la couleur vert d'eau. Je découvre Jesse ce soir-là, drôle, théâtral, fin. Puis on se recroise que bien plus tard, à The Joke. Entre-temps, je t'ai raté à la petite loge, mais je me rattrape au Théâtre du Marais et vois ton spectacle entier dans toute sa splendeur. Et je ris, bien sûr, mais je suis aussi très émue. Tu es très touchant dans ta différence. Encore une fois, je me reconnais en toi. Depuis, on ne se quitte plus. Merci, Jesse, de venir aujourd'hui dans mon podcast.
Avec plaisir, je suis trop content. Trop beau, trop bien. C'est vrai qu'on s'est croisés plusieurs fois avant de voir nos spectacles respectifs.
Ouais.
Moi aussi, je suis venue te voir, j'ai pris une claque, c'était incroyable. Je suis trop content du succès que tu rencontres.
Oh.
Et cette entrée si tragédienne de ton spectacle, mais j'étais, elle est folle en fait.
Mais...
elle a lâché la rampe et elle est pas prête de la récupérer.
Mais tu sais que cette entrée théâtrale parfois est mise à mal par le comportement des spectateurs.
Ah ouais,
pas là le soir où il y avait un gars qui avait accroché son parapluie à la scène?
Non, j'étais là quand il y avait des meufs qui étaient pieds nus, leurs pieds,
ouais,
sur,
bah,
scène.
Ouais, ouais, pieds nus, les pieds sur scène, et deux meufs qui souriaient pas, justement.
Ah, j'étais là aussi, j'avais envie de leur faire une réflexion. Qui va dans une salle de spectacle pour détester, mais en plus, dès tes premières phrases,
ouais,
elles étaient contre toi. Et
ouais,
je vois très bien, des fois j'en ai aussi dans ma salle. Ouais. Et t'es là, mais enfin, pourquoi vous êtes là?
Trop
vous
bizarre,
avez payé, venez au moins essayer.
Elles ont payé cher, c'est
26
euros.
Ouais, tu vois, essayez au moins d'être séduite,
ouais,
peut-être. Tu vois. Et puis je trouve, surtout, puis tu sais, t'as eu une standing à la fin, incroyable,
ouais,
les ces deux évidemment, ces deux connes qui se lèvent pas,
ouais,
franchement quoi,
ouais,
est-ce que le monde
après,
est pas
moi,
assez difficile comme ça?
Je tiens à le dire que c'est une fausse standing, parce que je demande quand même aux gens de se lever.
Non, je me souviens plus. Ah ouais,
gens, bah, je dis aux gens et maintenant levez-vous et dansez, tu vois.
C'est peut-être vrai.
Donc,
peut-être vrai.
Donc en fait c'est pas encore tout à fait des vrais standing. J'incite quand même les gens à danser sur Bamboléo et ensuite les gens.
Putain, prends-la dans la tête surtout trois,
ouais,
semaines.
Et parfois j'ose pas parce que je sens que les gens vont pas se lever et danser. Et ça m'est arrivé de genre de pas la semaine là. Et maintenant si vous voulez levez-vous et dansez.
Dansez sur le siège.
Et que personne. Personne ne le fait. Oh, putain, moi, quand je suis venue te voir, il y avait une nana qui avait un esprit de contradiction, qui t'avait répondu sur quoi? C'était sur genre...
Qui répondent souvent dans le spectacle.
Ouais.
Je me souviens...
Attends, c'était sur un film d'adolescent. Non, tu donnes moi, une rêve et elle, fait, elle a fait « Ah non, je crois pas, non. »
Oui, c'est quand je parle de Tinkerbell,
ouais,
Paris Hilton,
oui,
tout ça. Ouais, 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 parce que c'est un spectacle éminemment intellectuel. non mais c'est vrai que je mets plein de rêves de mon enfance, bah, The Simple,
oui,
Life,
ouais,
Charmed, et du coup c'est vrai qu'à un moment je demande si quelqu'un a la rêve de ce que j'ai appelé mon chihuahua Tinkerbell, comme Paris Hilton, sauf que personne n'a jamais la référence, mon public est trop intelligent pour ça.
Et,
ou trop beauf. Non parce qu'il faut être un peu beauf quand même pour Tinkerbell,
bah, Paris
Hilton.
Je sais pas.
J'assume, hein, je suis le plus gros des beaufs.
C'est beauf mais... chic. C'est gay. Peut-être c'est trop d'hétéro,
ouais, en fait,
je crois.
Ouais, c'est super, ouais, gay. Putain, s'il vous plaît, la commu, venez voir mon spectacle.
Non, les gars, venez quoi. Allez voir Jesse.
Et non, surtout, il y a quelqu'un qui éternuait de manière...
Ah oui.
Tu te souviens, mais
ouais,
genre
ouais,
vraiment,
ouais,
entendez-moi quoi.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'était incroyable.
Ouais.
Et du coup, à un moment, bah, tu le laisses faire une fois, deux fois, puis la troisième fois, tu dis que est-ce un ex qui m'en veut.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois,
oui, t'étais chaque fois.
Ouais, ouais.
Mais là, j'aime bien, c'est que je me suis reconnue parce que toutes les deux, on a ce côté un petit peu vieille dame, qui est que je pense qu'il y a des humoristes qui restent un peu ou, tu sais, les humoristes sont ou méga cool et il n'y a pas de souci,
ouais,
ou très agressifs et vénères, ouais, ils vont clasher. Mmh. Et nous, on est dans cet entre-deux-deux. Ah, ça m'embête.
Oui. Et en même temps, il ne faut pas perdre le masque de
ouais,
sympathique
oui,
que tu vas avoir sur scène.
Ouais.
Du coup, t'es là. Ouais. Quelqu'un peut-il dénoncer la personne qui.
qui fout la merde.
Ouais. Oh, mais en même temps, j'aime bien ça dans les spectacles parce que ça permet de sortir du texte et puis de communier vraiment avec le public. Et moi, j'ai un amour infini pour mon public. Je serais que toi aussi. Parce que putain, c'est la galère en ce moment. Ouais. Ils dépensent de l'argent pour venir en salle. Ah, bah, il y a 1500 spectacles autres à voir. Ils sont dans notre salle. Ouais. Du coup, déjà, ils sont là et je les aime. Et en plus, quand ils commencent à rire avec toi et ton histoire, tu les aimes d'un amour fou. Du coup, dès qu'il y en a un qui fout la merde, t'es en mode je t'aime, mais on va avoir une relation amour-haine pendant quelques secondes. Et je trouve ça trop cool.
Bah, moi, dès qu'il y en a un qui fout la merde, je l'aime plus. Hein. J'ai plus d'amour pour cette personne.
Ah, mais parce que toi, parfois, ils sont peut-être un peu violents dans la façon.
Ah, ouais. Moi, j'ai vraiment des grands malades. Ah, ouais. Oui, toi, t'as des petits relous mignons, chiants.
Oui, les premiers de la classe, un peu dissipés.
Oui, non, moi, j'ai eu des déglingos. Hein. Oh. Mais après, par contre, ça solidifie l'amour avec le reste de la salle. Mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher parfois de comparer les publics. Tu vois.
Oui, bien sûr.
Et de faire genre des stories un peu genre passives-agressives.
That's my vibe.
Ou genre, je compare les publics entre eux et je fais passer des messages subliminaux, genre merci Charleroi d'être si poli et de ne pas se lever pour aller faire pipi. Sous-entendu, contrairement à la deuxième représentation à Marseille, par exemple, la semaine d'avant.
C'est vraiment ça.
Des trucs que tu veux faire passer genre à ton mec, mais là tu les fais passer au public. On a des relations plus passionnelles parfois à nos publics.
Parce qu'on les voit. Enfin, moi qui n'ai pas de mec et qui est quand même une vie de merde. Hein,
tu baises. Arrête, tu baises.
Je baise.
Attends, tu baises en boîte.
Non, ça c'est sûr.
On peut pas te l'enlever. Ça c'est à toi.
Mais c'est vrai que la relation au public, c'est un truc vraiment amour-haine parfois. Parce que des fois c'est dur, mais aussi sûrement de ta faute. Peut-être que t'es arrivé dans une moins bonne disposition. Il y a moins de personnes dans la salle, donc il se passe moins une osmose.
Ouais.
Et parfois, c'est une montagne, kiff absolu. Du coup, tu dis, putain, hier, c'était vraiment nul.
Ouais.
Et en même temps, la semaine d'après, à nouveau, c'est un peu une redescente. Du coup, t'es en mode, putain, il y a deux jours, c'était incroyable.
Ouais.
Tu compares tout le temps comme ça.
Tu compares et c'est une combinaison. Moi, je trouve que les meilleurs publics, c'est les publics qui rient fort, qui quand même envoient qui rient beaucoup.
Qui te donnent, en fait.
Qui te donnent.
Ouais, je suis d'accord.
Pas la peine forcément d'applaudir beaucoup, mais rire fort. Sourire quand même d'emblée quand les visages sont éclairés, des visages souriants, soyez conscients. Ou alors, si vous avez une tête de connard, mettez-vous au fond. Mais qui sont polis quand même, qui parlent pas, qui commentent pas, qui répondent aux interactions, mais qui veulent pas faire le spectacle à ta place.
T'es exigeante, hein.
Très exigeante.
Et là, elle me regarde avec des yeux, j'ai peur en fait. I don't feel safe.
Non, mais c'est vrai que je suis devenue un peu plus exigeante au fur et à mesure.
Moi, j'aime qu'ils soient libres. Enfin, en fait, ça me dérange pas si. Ils s'y discutent, mais je vais le dire et je vais dire arrêtez. Mais ça va me donner l'occasion de m'adresser vraiment. Comme moi, j'ai un vrai texte où j'ai pas beaucoup l'occasion de leur parler frontalement de manière écrite. Je suis content quand il se passe un truc imprévu parce que trop cool, c'est mon moment pour pouvoir faire le maître de classe.
Okay.
Et comme ça me fait rire ce perso, de dire mes puces, il se passe quoi là par contre? Parce que c'est moi qui raconte ma vie pendant une heure et demie.
Oui, c'est moi la star.
Et du coup, ça me fait rire de faire ça.
Oui, je comprends. En fait, le truc, c'est.
Mais toi, t'as des plus grosses salles aussi, donc tu peux pas te permettre faire le maître de classe pour 200 personnes, tu vois.
En vrai, il y a de ça aussi. Entre 100 et 200, ça peut partir un peu plus en couille. Et aussi, parfois, comme il y a des moments d'interaction prévus, quand c'est hors les moments d'interaction, je sais que si je rentre dedans, là, ensuite, ça va prendre trop de place dans le spectacle. Et moi, j'ai eu des gens qui parlaient, mais au balcon, j'ai eu des gens qui, quand je leur ai dit... Les autres, ça a gâché la représentation de certains spectateurs qui étaient à... j'ai demandé à Axel, le régisseur, je dis, éclaire la salle, je dis, qu'est-ce qui se passe là-haut? Et il y a un gars qui était là, ouais, c'est moi qui parle, ouais.
Ah oui, donc hyper violent.
Donc en fait, parfois, il y a des trucs où t'es en mode, mais vous êtes des malades.
Ah ouais.
Malades. Mais après, je pense que c'est l'humour qui fait ça. Et d'un autre côté, oui, évidemment que ça redouble mon exigence. Et parfois, il y a des soirs où, oui, en fait, ils sont polis, mais ils sont un peu mous. Mmh. Et ça rit mou.
Ouais.
Ça bande mou, en fait.
Exactement.
C'est une baisse chiante. Et je suis là, j'ai passé un super moment, merci beaucoup. Et puis les gens sont là à la sortie, ah bravo, on a bien aimé. Parfois
souvent,
ils achètent un livre,
ils ont aimé,
très contents.
En fait.
Et moi, j'ai envie de dire, non, je te déteste.
Ouais, mais je crois qu'il faut réussir. C'est dur comme exercice de dépasser ça. Mais parce que parfois, ça s'est pas produit le truc grandiose, mais eux, il faut savoir qu'ils ont
passé un super moment.
Et du coup, ils sortent et ils ont passé un... Alors parfois, non. Parfois, ils ont...
Non, mais parfois, moi, je pense que j'ai gâché la représentation de spectateurs qui, genre, avaient passé un super moment et qui m'ont vu à la sortie, qui ont acheté mon bouquin, qui ont fait « Ah, c'était bien ?» Je fais « Moi, non, pas terrible. »
C'est pour ça.
Oh, et genre, je les blesse dans le cœur.
Ouais. Et il faut faire vachement gaffe à ça, parce que j'ai eu tendance à faire ça à un moment donné. Et les gens avec qui je travaille m'ont dit « pas du tout, en fait. » Après, tu peux nous dire ce que tu veux à nous en off, mais ton public... Eux, ils ont kiffé. Donc, c'est horrible quand toi, t'as passé un bon moment avec quelqu'un et que la personne te dit, bah, pas moi, en fait.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, ah ouais, j'avoue. Donc,
bah,
écoute,
c'est, bah, oui, non, c'est
les
vrai.
Débuts du métier que j'apprends.
Ouais, c'est clair. Et attends, toi, Jessé, parce qu'on a un truc en commun, c'est qu'on était tous les deux. Enfin, on est toujours comédien en plus d'être humoriste.
Ouais.
Mais résultat, je suis très curieuse de savoir la transition, en fait, d'acteur à humoriste.
Bah, en fait, la transition, je l'ai faite.
Et ta transition sexuelle aussi, après, si tu peux nous en parler.
Ouais. Et ben, les deux sont intrinsèquement liés. En fait, ça s'est tout simplement passé. Je sortais d'une représentation. J'ai joué au théâtre avec Francis Huster et Régis Laspalès.
Ok.
Pendant 2 ans et demi, une pièce de Laurent Ruquier, qui était une grosse comédie populaire géniale. On avait fait beaucoup de grosses tournées, on jouait dans des zéniths. C'était ma première expérience et c'était incroyable, cette expérience de la scène. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais bien. J'en parlais avec Régis Laspalès, qui lui est humoriste émérite. Et qui, je dis, ah, ça doit être incroyable d'expérimenter le plateau avec ton texte, avec de l'humour, faire rire. Et il m'a dit, bah ouais, t'as qu'à lance-toi, hein, tu peux te lancer et tout. Et donc ça a trotté dans ma tête et est arrivé le Covid. Et c'est là où j'en ai profité pour mettre à profit le temps qu'on avait. Il ne se passait plus rien dans ma carrière. Tous mes projets s'étaient annulés. Enfin, tous mes projets, ouais. Et 3-4 projets qui sont annulés, hein, qu'avons-nous. Et du coup, j'ai écrit. Et quand les théâtres ont réouvert, avec Marion Mésadorian, que j'avais croisé sur mon chemin à un stage AFDAS, c'est un stage... pour les gens qui écoutent l'AFDAS, c'est en gros notre centre de formation, tu vois. Donc c'était un stage d'écriture ou je sais plus de jeu qu'on avait fait ensemble et on s'est rencontrés. C'est une super humoriste, Marion Mésadorian. Et du coup, on a réécrit un peu. La Petite Loge, on a passé des essais. C'est un petit théâtre dans Paris, de 30 places à Saint-Georges. Et ensuite, j'ai été pris dans ce petit théâtre et ils m'ont donné un jour par semaine pour parfaire mon texte, pour l'améliorer. Les prods sont venus et le public s'est intéressé. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais ça date que de, en fait, février 2022, il y a un an.
Incroyable. Et donc, en un an, tu as eu une ascension fulgurante. Moi,
ouais,
tu sais que je me suis tapé 2 ans de Petite Loge.
Ouais,
enfin,
ouais.
Si je me suis tapée, j'ai adoré, c'était pas les plus beaux moments de ma vie.
C'est chouette, la Petite Loge.
Je pense que quand je serai sur mon lit de mort, je me souviendrai de deux soirées à la Petite Loge, et ensuite au Bowman Café, à l'angle de la rue La Bruyère. Et, elles sont super, Périne et Mélissa. Mais j'ai fait 2 ans de samedi 20h. Toi, t'étais quel soir ?
Mercredi 21h30.
Et tout de suite, t'as eu cette idée de DA, de couleur.
Tout de suite. L'affiche, on l'a jamais changée depuis le jour 1 de la représentation. C'est Clément Dezélu, c'est un artiste qui est aussi mon ex, qui l'a faite, qui est incroyable. Et tout de suite, j'avais envie de... Moi, je suis un fan inconditionnel de Mrs. Maisel. Mmh. Et j'avais vu très peu de stand-up. J'avais vu Blanche Gardin, j'avais vu Florence Foresti. J'en avais pas vu tant que ça, en fait, il y a 2 ans de ça. Et du coup, j'avais pas trop d'idées de ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Et en fait, j'ai fait un truc qui se fait pas trop, c'est refaire une mise en scène, alors qu'au final, tu l'utilises pas tant que ça.
Ouais,
et j'avais envie vraiment d'une scéno, j'avais envie d'un cocon, comme peut avoir Mrs. Maisel quand elle fait du stand-up dans la série. Et du coup, on est parti de là, et avec nos petits moyens du bord, on a fait une jolie affiche, et une scéno, un costume, qui rappelle du coup la couleur vert d'eau, qui est le thème principal. Et ensuite, là, au Théâtre du Marais, vu qu'on avait un peu plus de moyens, on a fait un rideau drapé en velours d'arrière-scène. Et on a essayé de créer avec un micro un peu vintage et des blocs de couleur vert d'eau. C'est tout simple, hein, avec une poursuite un peu musical.
Ouais.
Et voilà, c'est vrai que j'aime bien. J'ai hâte, si un jour je vais dans une plus grande salle, de faire encore un effet un peu plus sympa.
Moi, ça fait des années que je demande un micro vintage et qu'on me dit non, c'est pas la peine.
Bah alors souvent il faut insister,
ouais.
Parce qu'en effet c'est pas la peine,
ouais.
Enfin tu mets un micro, ça marche tout autant, mais c'est vrai que souvent il faut dire non, mais si. Ça va rajouter un truc en
plus. Moi j'aime bien, c'est les micros un peu jazzy,
mon rêve c'est d'en avoir un qui pend du plafond.
Oh.
Tu sais, que tu prends comme ça, comme les vieux crooners et tout.
Oh, mais grave, ça
c'est
stylé.
Ouais, ça j'adorerais.
Mais ouais.
Mais le problème, c'est qu'après, ça passe devant ton visage, le fil.
Ah,
tu vois ?
Ah oui.
Du coup, il faut voir un peu. Parce que les gens, ils te voient de face. Ils te voient pas comme ça.
Et oui.
Donc,
oui.
Ça c'est un problème. Mais tu sais, on l'a fait nous-mêmes, le micro. Enfin, on a acheté le micro en lui-même. Mais le pied, on l'a bombé en argent.
Wow.
Pour faire. Parce qu'on trouvait pas un micro tout en argent.
Ouais.
Et du coup, on l'a fait nous-mêmes. Donc. C'est chouette.
Ouais, c'est bien, c'est exigeant. Voilà, vous savez, parce que tout était cassé à la Comédie de Paris, donc ils ont fini par me remplacer, à mettre un nouveau Mes parents ont acheté un pied et un micro, mais le micro, il a un bout rouge. Et donc, résultat, ça se voit et c'est pas joli et ça fait...
Mais tu sais, t'achètes une bombe et tu le veux quelle couleur? Noire, tu vois?
Noir, je pense.
Et ben, en fait, t'achètes une bombe qui est une bombe spéciale plastique, parce que j'imagine que c'est en plastique, ou spéciale métal s'il est en métal. Et en fait, tu bombes, tu fais... Et tu laisses sécher à l'air libre et ton bout rouge, il devient noir. Hein. C'est tout con.
Et même à un moment, je me disais, oh, on pourrait pas faire un truc doré ou rose doré. Non,
en fait, les bombes, elles existent dans toutes les couleurs. Tu peux avoir doré métallique.
C'est Adrienne, si tu m'écoutes, c'est ma metteuse en scène qui m'a un peu bridée là-dessus. J'ai vraiment dit et redit, oh, je verrais bien un micro doré, un câble, etc. Doré. Et non, c'était trop bling. Alors que j'ai envie de faire ressortir la Beyoncé en moi.
Bah, bien sûr, bien sûr. Non, en vrai, quand tu vois les rostas américaines, elles ont toujours des micros incroyables avec des paillettes, des diamants et tout. Et moi, j'étais là, j'aimerais bien un micro argenté. Non, ça va être compliqué à trouver.
Et c'est
là,
mais t'as insisté.
Ouais, et puis on l'a fait.
Et t'as eu une vision, une exigence dès le début. T'as eu une ambition.
Et j'ai eu la chance d'avoir des équipes qui m'ont dit oui aussi. Hein.
Oui, t'as été signée assez vite par Emily Kindinis, super productrice. Kindinis, il faut
On dit c'est grec, je crois. Donc je pense qu'en grec, on doit peut-être prononcer Kindinis, mais elle dit Kindinis.
D'accord.
Et Pascal Lely, c'est franchement la dream team. Hein. Je suis trop content.
Et c'est qui fait ta presse?
Laurence Faller et Vincent Bayol, qui sont extraordinaires.
Bien sûr.
Ouais, franchement, je suis trop, très content. Je suis encore un lapin de 3 semaines de tout ça, mais je suis trop content. Quoi. Et surtout, moi, je crois que dans ce métier, l'important... c'est d'avoir l'intelligence de s'entourer des meilleurs. Et une fois que tu as réussi, pour toi en tout cas, d'avoir les meilleurs, il faut leur faire confiance.
Oui.
Des fois, parce que moi, j'ai des idées qui ne sont vraiment pas les bonnes idées.
Mais
je suis persuadé un peu de sortir de la cuisse de Jupiter et de dire « si, c'est la bonne idée ». Pas du tout.
Ouais.
Donc, il faut réussir à faire confiance. Non, tu as des gens très compétents qui s'occupent de tout ça. Donc, fais-leur confiance. Je crois que c'est un truc où tu ne peux pas y arriver seul.
Non, mais c'est sûr,
tu as
besoin de feedback.
Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a plein d'humoristes dans notre génération qui sont un peu contre les productions maintenant,
qui veulent
être en autoprod parce que tu gagnes plus d'argent. Et parce qu'il y a un peu cette légende comme quoi la production t'exploite et te prend tout ton argent. Et je trouve que c'est faut pas raisonner comme ça, parce que déjà tu peux pas y arriver seul dans ce métier et dans n'importe quel autre métier. C'est vraiment ma conviction profonde.
Je sais pas, parce que quand on est produit par Emily, c'est un peu le trophée. Je veux dire, c'est extraordinaire. Après, je pense qu'il y a différents types d'humoristes. Déjà, tous les deux, on est comédiens, donc je pense qu'on est aussi particulièrement sensibles et à la fois avec besoin d'un collectif, d'un groupe, de collaboration. Des humoristes qui n'ont pas un background d'acteur, qui sont plutôt, certains ont fait voir des études de commerce ou de sociaux, ou voire de journalisme, de sciences politiques, en fait, ils savent ce que c'est qu'une fiche de paie. En fait, ils savent très bien faire leur compta, leur machin, leur truc, et ils ont moins...
Ouais, mais le problème, moi, je pense que l'avoir une production, c'est pas uniquement faire de la comptabilité, tu vois.
Non, c'est avoir une stratégie.
C'est avoir une stratégie, et c'est difficile d'avoir un regard distant sur ta propre personne. Et eux, ils t'apportent vraiment ça, quoi, un regard extérieur et une route à prendre, qui est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, c'est une route qu'on décide de prendre ensemble. Et en tout cas, moi, je sais que ça me repose et je peux me concentrer vraiment sur l'artistique, tu vois, le texte.
Et oui, c'est sûr que parfois, c'est bien d'être entouré. Moi, tu sais, j'ai Aurélia Loncamp en presse.
Ouais,
et extraordinaire.
Extraordinaire.
Elle me présente plein de gens. Enfin, c'est dingue de faire ce boulot avec elle. Et oui, et j'ai Adrienne. Avec Marion, vous voyez souvent, elle revient souvent voir le spectacle.
Oui, parce que là, on cale un peu les derniers. On était encore en rodage jusque-là. On estimait qu'on était encore en rodage. Du coup, fin mars... C'est là en fait. Je réalise en le disant. On doit normalement arriver à une version pseudo définitive de ce que sera le texte, même si c'est toujours en évolution constante. Du coup, on se voit régulièrement. Demain, j'ai encore une séance de travail d'ailleurs avec Émilie et Marion. En fait, on a filmé la représentation. C'est d'ailleurs la représentation où t'étais. On a filmé.
Génial.
Ouais. Et on entend ton rire d'ailleurs des fois. C'est trop drôle. Et du coup, on travaille là-dessus.
Après, est-ce qu'on entend mes larmes?
De sang.
Pleurer en silence.
Et on a 10 minutes encore où on veut améliorer, mais c'est peut-être une phrase par-ci, une phrase par-là. Et ensuite, on sera vraiment content de là où on est.
Mais c'est génial. Et comment ça s'est passé, donc, toi, la confrontation au plateau de stand-up? Parce que là, donc, l'expérience du spectacle est très heureuse, fulgurante, rapide. Ensuite, c'est encore un autre délire. Hein. T'as vu les comédie clubs
Moi, je le vis un peu mal. C'était une discussion qu'on avait justement avec les gens avec qui je travaille, de est-ce qu'on continue ou pas. Après, on en a besoin parce que ça remplit un peu quand même.
Ouais.
Puis les gens te découvrent. Tu vois, moi, je suis encore en développement et les gens ne savent pas qui je suis. Donc, je suis obligé d'aller, de me présenter dans les comédies Comedy Club pour gagner un peu en notoriété et en personnes qui ont envie de découvrir mon travail. Mmh. Du coup, les Comedy Club, ouais, tu vois, je fais 10 minutes, je fais le début de mon spectacle, un peu condensé, sur la sexualité et sur les mecs quand tu croises en soirée qui disent « je suis pas pédé ». Et donc ça, c'est mon passage en Comedy Club. Ce que je trouve difficile, alors parfois, c'est d'être confronté à un public qui n'est pas du tout réceptif à ce que tu dis, parce que l'homosexualité, des fois, abordée frontalement, les gens, vraiment très rarement, mais parfois, les gens sont encore un peu en mode « qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là ?» Du coup, des fois, c'est un peu difficile. Dans certains Comedy Club, d'ailleurs, j'ai arrêté d'y jouer parce que je trouvais que c'était trop difficile. Ça m'enlevait une part d'humanité. Je rentrais chez moi en mode « super, je suis de merde, en fait. » Puis tout le monde est homophobe. Du coup, c'est horrible, tu vois. Tu perds foi en ta capacité à avancer. Et au contraire, où tu as des Comedy Clubs incroyables, comme le Barbès Comedy Club, le Joke...
Ça, c'est la scène Barbès.
Ouais, la scène Barbès, maintenant, ça s'appelle, qui est tenue par Larry et Thomas, qui est incroyable. Et le Joke, qui est tenu par Ambre, et c'est celui de Baptiste Le Caplan.
Ouais.
C'est génial, c'est des vibes incroyables, j'adore.
Ouais.
Et là, par contre, c'est trop cool, parce que j'ai l'impression de rencontrer vraiment mon public, en tout cas.
Ouais.
Et ce qui est parfois un peu dur, c'est les coulisses. Les autres humoristes, c'est un milieu quand même, je sais pas si les gens le savent, mais c'est un milieu qui est très hétéro, qui est vraiment très hétéro et masculin,
tellement.
Et franchement, moi je croise jamais d'autres homos
en plateau. Non, parce que les gays ils veulent plus
très
faire de plateau, peu de femmes, une meuf max par plateau.
Toi t'es la seule, enfin, quand j'en croise d'autres, il y a Anne Kaen, il y a 3-4 autres nanas, tu vois.
Mais sinon, une marée de mecs hétéros.
Puis alors, ils entrent, ils se checkent. Ça va, putain, là, je dois tester et tout. Je sais pas, j'ai pas travaillé, la vérité, j'ai pas travaillé. Ah, vas-y, mon gars, de toute façon, tu montes, tu travailles pas, on s'en fout. C'est le public qui a raison, c'est le public qui a. Tu vois, toi, t'es là à côté, t'es là. Si, travaille en fait.
J'adore quand tu fais l'accent Kaira. Tu le fais aussi dans ton spectacle quand tu fais la meuf au lycée.
Qui me protégeait.
Qui te protégeait quand tu te faisais agresser. T'avais genre eu une agression homophobe dans le lycée.
Plus d'une, putain. Moi j'étais j'ai le spectacle en parle du harcèlement scolaire qu'on peut vivre quand on est homo. Mais je crois que le harcèlement scolaire on le vit pas forcément si on est homo, hein, si on est juste différent. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aborder cette thématique. Et moi, j'avais un système de protection. Je faisais les devoirs de personnes un peu racailles du collège. Et du coup, vu que je faisais leurs devoirs, ils me protégeaient. C'était un peu l'accord tacite. Un jour, dans un couloir, il y a un mec qui m'a insulté de sale pédé. Et ma protectrice a entendu, en fait. Et ça s'est mal passé pour sa gueule, en fait.
C'est génial. Franchement, c'est l'un de mes moments préférés.
Ouais.
Et donc, pour resituer aux auditeurs, justement... donc toi, tu viens d'une famille d'agriculteurs.
Ouais, alors moi j'ai de grands-parents agriculteurs qui avaient des terres, des champs, tout simplement, dans la région de Dijon et dans le sud aussi également après. Et ça a un peu périclité dans le sud et à Dijon, les terres agricoles, c'est plus ce que c'était avant. Et du coup, ils ont vendu certaines terres. Et mon oncle en a repris certaines. Donc c'est mon oncle aujourd'hui qui a la ferme familiale et qui continue à exploiter. Et on fait du bio. C'est du bio, depuis 20 ans maintenant. Ouais.
Depuis, vous étiez les précurseurs dans le bio.
Franchement, dans les années 90-2000, c'était pas du tout la mode. Ça marchait vraiment très peu. Et tout le monde ça coûtait cher de faire la transition. Et les gens étaient vraiment à quoi bon.
Que de transition dans cet épisode.
Ouais, t'as vu. Ce sera le thème. et en fait, très vite, ça a pris. Et on est devenu la seule ferme qui fait ça dans la région de Dijon. Maintenant plus. Mais du coup, on a un marché. Directement, du coup, les gens viennent acheter directement aux producteurs nos légumes. On fait que des légumes et des céréales, mais ça, c'est pour plutôt la grande distribution. Et du coup, je viens de là, je viens de la terre.
Ta mère travaille là-dedans avec donc sa famille.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Je l'ai un peu simplifié dans le spectacle, mais c'est ma tante, du coup la sœur de ma mère et mon oncle qui gère vraiment tout ça. Et nous, on donnait un coup de main. Pour tenir, pour venir ramasser les patates. Moi, j'ai fait beaucoup de maraîchage, j'ai tenu la caisse sur le marché, à la ferme. Et c'était des grandes... En fait, c'était l'occasion. Bon, là, il faut faire les patates. Tu vois, c'était 3 semaines où il faut ramasser les patates. C'était... Moi, j'ai toujours vu ça comme une fête, en fait.
Ah, c'est génial. Ouais. Et donc, ta mère, elle faisait quoi ?
Elle était assistante dentaire.
Donc, ok, ouais. Dans un cabinet dentaire.
Ouais, exactement, exactement.
Bah, en fait, des pas voulu bosser avec non, ses frères et soeurs.
Non, des enfants, même du, en fait, du côté de mon père aussi, c'était des agriculteurs, et du côté de ma mère aussi. Et du coup, aucun, à part mon oncle, le mari de ma tante, a eu envie de continuer à être agriculteur. Tous les autres enfants ont fait d'autres métiers. Et j'ai un autre oncle aussi, mais lui fait des roses. Mmh. Il est, ouais. Oh, horticulteur, wow. Dans le sud.
Oh là là.
Et du coup, il n'y en a que deux qui ont continué vraiment ces métiers de la terre.
Ok. Donc ta mère, cabinet dentaire, ouais. Et ton père...
Et mon père, très engagé en politique,
oui.
À gauche, il est trésorier et co-président maintenant du Parti communiste en Bourgogne, en Côte
Incroyable.
D'Or.
Ah, il fait que de la politique, il est...
Maintenant, ouais. Et sinon, il faisait aussi, il avait un job très politique, il était directeur de la mission locale.
Okay.
La mission locale, c'est l'équivalent en gros, un peu la NPE, Pôle emploi, sauf que c'est pour les jeunes entre 16 et 26 ans, si je ne dis pas de bêtises, déscolarisés et qui sont en décrochage scolaire. Et c'est comment on réinsère ces jeunes dans la société, et comment on les fait s'intégrer, on leur trouve un travail, on les accompagne, on les aide financièrement. Et donc il s'est occupé de ça toute sa carrière, pendant 40 ans je crois.
Et tu racontes aussi dans le spectacle que tu as un père biologique,
ouais,
mais que tu n'as jamais rencontré.
Non, ouais, que j'appelle mon géniteur ou mon père biologique.
Ouais.
Mais j'ai vraiment envie de faire la différence. Père biologique, il y a encore ce truc de père.
Ouais.
Du coup,
toi, c'est pas le cas, c'est géniteur.
Non, pas du tout, c'est vraiment un géniteur. Quoi. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'il a donné la petite graine.
Ouais.
Et ouais, je raconte ça, que je viens pas d'une famille nucléaire traditionnelle.
Mmh.
Et mon père, ma mère, sauf que ma mère a eu une aventure extra-conjugale, elle est tombée enceinte de son amant. Et donc, je raconte voilà, comment moi, je suis la petite graine qui grandit en fait un noyau d'amour, mais pas un amour traditionnel comme on pourrait le penser.
Et son amant, elle était déjà avec ton père ?
Ouais.
Oh.
C'était un amant de passage, hein, je crois, qu'ils sont connus 3 mois. Alors qu'avec mon père, ils étaient ensemble depuis 10 ans.
Il était venu au cabinet dentaire, même pas ?
Non, c'était un collègue de mon père, parce que mon père faisait du foot à un moment donné, et il faisait du foot avec mon père.
Salope. Mais qui a bon goût, qui aime bien les mecs sportifs quand même.
Ouais, apparemment il était très beau. Et ma mère n'arrête pas de me dire ah là là, il est tellement beau, je suis tombée amoureuse de lui instantanément.
Bah, c'est possible, t'es tellement beau toi aussi.
Oh, c'est gentil.
Bah oui.
Oh, de moins en moins avec les années qui
passent. Oh, arrête.
Non.
On va aller faire un soin au spa avec
Par
ton ami.
Par devant, je vais te retenir.
Ah non. C'est génial, la copine avec qui t'es venue au théâtre, j'adore, trop classe.
Ah, ouais. Anaïs.
Ouais, Anaïs.
Ah ouais, qui
trop
bosse dans
des spas business woman.
Ah ouais, ouais, elle va dévorer le monde.
Ah ouais, j'adore. Ah, résultat, ouais, un père quand même hyper
engagé, tu veux
dire. Ouais, enfin pas dans le cliché du patriarcat.
Ah pas du tout.
Pas du tout quoi.
Non, pas du tout. Non, mon père, il est très très aimant, très généreux. Bon, il parle pas beaucoup. Enfin,
ah oui, un peu taiseux.
Très taiseux. Alors, il s'anime uniquement quand on parle de politique.
Ah,
et dans ce cas-là, tout le monde autour est un peu sombre merde qui n'a rien compris. Donc parfois, ça peut être un
là,
peu.
Là, en ce moment, il doit être chaud.
Oh, laisse tomber.
Ouais.
C'est terrible. je peux pas aller manifester là aujourd'hui, on enregistre.
Ouais. Ouais.
Laisse tomber, j'ai eu le droit à une diatribe.
T'es le social traître.
Je suis un traître et tout.
Ouais.
Donc ça peut être difficile hein, quand même les rapports avec mon père.
Ouais.
Mais on s'aime d'un amour infini. Et heureusement, j'ai le soutien de ma belle-mère, Maryse, que je connais depuis toujours. Mon père et ma mère se séparent à ma naissance hein, quand il apprend ça.
Ah.
Ouais. Mais il décide quand même de me reconnaître et de m'élever comme son propre fils,
okay.
Tout en sachant que je ne suis pas de lui. Et il se met tout de suite avec ma belle-mère, sa secrétaire, Maryse. Et du coup, Maryse, que je connais depuis 30 ans et qui est un peu une seconde mère. Et on subit mon père, du coup, et sa politique et sa gauche radicale depuis 30 ans.
Et ta mère, elle a retrouvé l'amour ?
Ouais, elle a retrouvé l'amour. Il s'appelle Christian, il est très gentil. Et ils sont ensemble, mariés depuis une vingtaine d'années, 17 ans peut-être.
Ah ouais ?
Ouais. Mais je suis seul enfant.
Aucun des deux n'a
d'enfant de leur côté. Et mon père et ma mère n'ont pas eu d'enfant, eux aussi, après moi.
Bah, tant mieux, parce que t'es tellement beau, ça aurait été cruel, un petit frère ou une petite soeur.
Surtout,
joli.
Je vais tout rafler quand ils seront plus là. Et j'ai hâte. Non, je rigole, je vais surtout payer 4 maisons
L'héritage.
De retraite. Ça va me coûter une blinde.
Et tu te souviens, tu sais, en ce moment, il y a le podcast Coming Out que j'adore d'Élise et Julia.
Okay.
Je suis fascinée par les récits de Coming Out et tout. Il faudrait trop que tu le fasses. Mais en attendant que tu fasses coming out avec Élise et Julia, toi, tu te souviens de ton coming out, de la fois où tu l'as dit
à mes parents ?
Ouais.
Parce que c'est marrant parce que on parle souvent d'un coming out, alors que quand on est homo, on le fait constamment son coming out en fait.
Ah.
On se rend pas compte quand on pose cette question, est-ce que tu as fait ton coming out à qui? Parce qu'en fait, tous les jours, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu dois le faire, en fait, ton coming out. Il y a toujours un truc où on soupçonne que tu es hétéro, en fait, au début. Ou alors que tu es gay. Et on se dit, oh, il est gay, il est pas gay. Et du coup, toi, tu es toujours en constance au travail, dans ton cadre amical, quand tu rencontres des nouvelles personnes, quand tu fais des dîners chez des gens que tu connais pas, quand tu es tout le temps, constamment. Plus ou moins facilement, en train de dire à un moment donné, je suis gay. Donc ouais, le coming out de avec mes parents, je l'ai fait à 18 ans, quand je suis partie vivre à Lyon pour faire Hippocagne. Et en fait, c'est la première fois que je vivais plus avec mes parents. Et on était un peu en conflit, parce que j'en avais un peu marre des études. Et je me souviens que j'ai envoyé un SMS à mon père, en lui disant, de toute façon, tu me comprends pas, tu sais même pas que j'aime les garçons. C'était un SMS, très dans la, un peu de, agressif comme ça. Wow. Et il m'a répondu, si je savais. Il m'a répondu vraiment comme ça. Et du coup, et il m'a répondu, si tu veux le dire à ta mère, dis-le. Sache que moi, je ne lui dirai pas. C'est à toi de lui dire. Tu fais ce que tu veux. Ça n'a jamais fait de... Tu vois, après, j'ai vu ma mère. Elle m'a juste posé une question en me disant, oh, mais les petits-enfants, la classique. Et j'ai dit, bah, écoute, j'espère qu'un jour, ce sera facile d'avoir des enfants quand on est homo. Et ma belle-mère, Maryse, alors là, elle était trop contente. Elle s'en doutait depuis que j'avais 6 ans parce qu'on jouait à la coiffeuse ensemble. Et elle n'arrêtait pas de dire à mon père. Elle me l'a dit après. Mais tu sais, je pense que j'essaie. Il est gay, hein. Et mon père disait, on verra, je sais pas, on verra. Et elle m'a, quand je lui ai dit à Maryse que j'étais gay, elle a dit, oh, ça fait 15 ans que je lui dis à ton père.
Et toi, donc, résultat, c'était un soulagement à ce moment-là ou...
Oui, c'était un soulagement parce que tu peux enfin être vraiment qui tu es pleinement. Mais j'ai jamais vraiment joué un jeu avec mes parents. Ouais. Mais c'est quand même, ça a mis en le disant quand même.
Ouais.
Et chacun a un timing pour le dire. Je sais que ça peut être difficile pour certains parce qu'on ne vient pas tous d'une famille aussi ouverte. Et parfois, nous-mêmes, on a une homophobie ancrée en nous nous fait ne pas accepter le fait qu'on soit gay. Et je sais que outer les personnes, tout, c'est un processus tellement violent que chacun... Parfois, il y a des gens qui ont 50 ans et tout cela... Enfin, il est super gay, hein, il est super gay. Il devrait le dire. Chacun son rythme, vraiment. Ouais. Ça peut être tellement traumatique de le faire trop tôt.
Ouais.
Tout comme ça peut être aussi traumatisant de le faire trop tard. Hein, parce que des fois, tu as un peu l'impression que tu es passé à côté de ta vie.
Mais il y a des gars comme ça. Je sais plus, la dernière fois, je me faisais maquiller. Et puis, et le mec me disait que mon copain, je dis, ah ouais, et tout. Puis on discute. Puis en fait, c'est un mec qui avait, je sais pas, la soixantaine. Mm-hmm. Et ça faisait juste seulement 10 ans, en fait, qu'il était avec son gars. Avant, il avait eu de la vie traditionnelle.
Là, pour les générations qui sont passées avant nous, c'était quand même. Ils ont un peu pavé la voie pour nous. Hein. Je les remercie infiniment. Mais toutes ces générations d'homo qui ont fait Stonewall, qui ont milité pour qu'on ne soit plus un crime et que ce soit plus pénalisé, ils ont été un peu obligés d'avoir une vie hétéro avant pour se cacher, se dissimuler. Nous, c'est plus facile. Alors, l'homophobie est encore à chaque coin de rue.
Ouais.
Ça, c'était, des fois, ça me déprime. Hein. Ouais. Parce que des fois, tu sais, on est un peu dans un microcosme à Paris
où tu te dis,
puis dans le milieu de l'art, tu te dis, t'oublies.
T'oublies.
Alors, t'as toujours des gens en public pour te parfois le rappeler. Dans les comédie clubs, hein, parfois, un peu homophobes.
Oh, il y a des blagues qui sont très, très limites.
Ouais, et puis...
Dans le marais.
Et puis, je te jure. Et des fois, t'as aussi des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'homosexualité. Ou, tu vois, un peu...
Mais c'est marrant ce que tu dis.
C'est toujours
que
un combat, quoi. En fait.
Moi, je remarque que là, j'ai un nouveau set, je sais pas si tu l'as entendu, où je dis que je suis hétérophobe.
Ah non, j'ai pas entendu.
Tu n'as pas entendu. Non. Et je vois, tu vois, sans être lesbienne, mais les réactions que ça crée, ne serait-ce que quand je dis ça. Ce que je dis, j'ai une copine qui est DJ et elle est lesbienne, elle mixe dans des soirées queer, donc c'est formidable. J'y vais, ambiance de folie, les gens sont beaux, pas été dans ce bien, incroyable. Impossible de retourner dans des boîtes d'hétéro, les gars puceux, ils font des chorés, des queuleuleux, c'est l'enfer. Là, les gens rigolent parce qu'il y a donc le cliché du beauf. Puis je dis, je suis devenue hétérophobe, quoi. Et je dis, hétérophobe, c'est niche, c'est compliqué pour se reproduire. Et là, c'est vraiment un truc, c'est une blague qui nécessite un peu de tendresse avec le propos.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas une blague où, alors tu vois évidemment qu'avec les publics woke, les gens sont de parce qu'en fait ils ont envie d'être d'accord et qu'ils comprennent. Et t'en as qui peuvent se sentir heurtés parce qu'ils pensent que c'est un vrai truc alors que ça n'existe pas. L'hétérophobie, c'est comme le racisme anti-blanc.
Ouais, ouais. Tu vois. Moi, c'est un truc que j'ai entendu récemment. Un mec que je datais et tout, bi, et à un moment, il commence à aller sur ce terrain de « Ouais, moi, j'étais en boîte gay, il y a des gens qui avaient des discours très violents sur les hétéros et je me suis senti mal. » Et franchement, l'hétérophobie, c'est aussi un problème, il faut en parler. Et alors, j'étais là, en effet, parfois, ça peut être violent. Et moi, je suis pas du tout pour... je trouve que l'homophobie est un problème, tout comme l'hétérophobie, si elle devait exister, serait un problème, évidemment. Le fait est qu'aujourd'hui, personne ne meurt d'hétérophobie. Non. Personne n'a des problèmes d'accès à l'emploi parce que hétérophobe.
Bah, oui.
Personne n'a des problèmes d'accès à la reproduction parce que hétérophobe. Personne n'a des problèmes d'avoir un appartement. Enfin, tu vois, genre, personne s'est fait frapper encore dans la rue parce qu'il a pris la main de sa meuf et t'avais deux hétérophobes dans la rue qui leur ont mis dans la gueule, tu vois. Donc, faut aussi faire un peu attention à ce qu'on dit. Et je pense que quand on aura réglé le problème de l'homophobie, s'il doit y avoir peut-être 0,01% de la population qui est en effet hétérophobe, ça se réglera avec l'homophobie, en fait.
Ouais.
Quand il n'y aura plus d'homophobie, il n'y aura plus ce qu'on peut appeler d'hétérophobie. Ouais. Tout comme quand il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus ce qu'on peut appeler peut-être parfois le racisme anti-blanc, tu vois.
Je pense que c'est juste un truc de privilège des hétéros qui doivent se sentir exclus et jaloux. Je pense qu'il y a une telle... culture parfois du milieu queer, une telle
et puis on est de plus en plus visible aussi,
voilà, et donc c'est tellement
donc ça les menace un peu dans leur suprématie.
Et puis parfois ils sont pas invités, voilà, c'est que parfois ils ne sont pas invités, et en fait, mais moi je trouve ça c'est ok, en fait, parfois voilà,
nous, notre communauté LGBT, on n'a pas été invités à la fête pendant des centaines d'années, hein. Et là on commence franchement on commence, et c'est quand même l'aboutissement d'une lutte violente pour notre communauté, où il y a eu quand même beaucoup, quand je vois encore toutes les personnes trans qui se font agresser, qui sont aujourd'hui les populations les plus victimes d'agression et d'homophobie et de transphobie. Nous, on n'a pas été invités à la fête pendant longtemps. Donc, peut-être qu'en ce moment, il y a un peu un truc qui se passe où les hétérosexuels blancs, souvent quand même de plus de 50 ans, ne sont peut-être plus invités à nos fêtes. C'est pas grave.
Oui.
Vous serez invités à nouveau quand on aura réussi à mettre tout à plat.
Ouais. Moi, je suis contente parce que je me suis glissée dans le milieu queer au moment où ils se prenaient tous la gueule entre eux. Et où en fait c'était au meilleur gay, ou attention, le gay blanc ou le gay de droite.
Alors ça, faut faire attention dans notre communauté aussi. Et ça, franchement, faut soyons tous unis, quoi. Non, mais tu vois, si on commence à se diviser sur qui est le plus gay, qui est le plus queer, qui est le plus à gauche, qui est en fait un peu quelqu'un de privilégié dans cette arrêtons, essayons tous de se regrouper. Et c'est pour ça que je suis hyper ouvert au fait que les hétéros doivent faire absolument partie de notre lutte. On ne doit pas les exclure, parce que sans eux, on ne gagnera pas la guerre. Enfin, tu vois, sans eux, on a besoin. On a vraiment besoin qu'ils viennent à nous. Et c'est à nous aussi de leur dire, de leur ouvrir les bras et de leur dire, mais venez. Tu vois, toi, qui es quelqu'un qui te définit comme hétérosexuel, on a besoin de toi, en fait, dans notre combat. Tout comme on a, le féminisme...
Peut-être que je ne suis pas hétérosexuel. Peut-être que je suis un garçon. C'est pour ça que j'aime les garçons.
Alors peut-être que tu t'identifies en tant qu'homme. En tant qu'homme.
C'est, hier soir, je suis tombée. Donc j'avais un garçon chez moi. Et, et on regardait des photos de mon album de quand j'étais enfant. Et moi, je me souvenais d'une fois où ma mère m'avait coupé les cheveux quand j'étais petite. Un souvenir traumatisant. Mais en fait, ce que je ne me souvenais pas, c'est que toute mon enfance, j'ai eu les cheveux courts. J'ai eu des coupes de garçon, quoi. Et c'est marrant, je l'avais complètement occulté, ce truc. Et je re-regardais les photos. Et c'est lui qui m'a dit... Mais c'est un petit garçon. Je disais, mais oui, c'est un petit garçon.
Alors, ma puce, je crois que ça va un peu plus loin que la coupe de cheveux pour s'identifier. Regarde, je valide complètement.
Non, mais c'est marrant.
Et moi, ma puce, une fois, j'ai mis des talons quand j'étais petit. Et je me suis dit, je suis une femme, en fait.
Non, mais c'est marrant parce que j'avais un pote en cours de théâtre qui était gay et qui était un peu misogyne, mais doucement, et c'était mignon, c'était marrant. Et il me disait, non, moi, je ne peux pas faire l'amour avec des femmes. Elles ne sont pas assez intelligentes, elles sont trop inférieures.
Mais... J'ai pénétré une femme pour la première fois il y a 3 semaines.
Ah non, mais tu vas raconter ça tout de suite. Et bref, et lui, il me disait, mais toi, t'es mon garçon. Je disais, mais moi, je suis une femme. Et je disais, mais non. Il me disait, mais non, mais toi, t'es un garçon.
Ok, mais peut-être.
C'est un jeu, non.
Non, mais peut-être que tu t'identifies plus à un garçon et que tu dois explorer ça.
Non, mais après, j'aime bien me prendre des bites dans la chatte, hein, tu vois. Non, mais je pense pas être non-binaire.
Non.
Ce que j'adore... je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un truc où, à la fois, je trouve ça marrant, la féminité, mais parfois, j'ai l'impression de jouer la féminité justement comme si j'étais un mec gay et pas comme une meuf. Tu sais, c'est pas naturel. J'ai l'impression de m'approcher des colliers, des rouges à lèvres, un peu genre comme un gay qui rentre chez Mac et qui est en mode... Mettez-moi...
I love it. I need it. I love it.
Mais parce que je pense que la féminité, ça n'existe... Enfin, c'est
une construction surtout patriarcale.
Attends, t'as baisé une meuf?
Alors, baiser est un grand mot. J'ai pénétré pour la première fois, j'étais dans un plan à trois, avec un couple absolument incroyable, magnifique, rencontré en soirée.
Wow.
On rentre chez moi. Et la meuf était magnifique, le mec encore plus beau. Et j'étais à wow et tout. Des fois, je fais ça parce que j'aime. Des fois, pour réussir à coucher avec des mecs hétéros hyper beaux, bah, je suis obligée d'avoir une meuf, quoi. C'est un peu le péage.
Ouais.
et du coup, ça me dérange pas. Franchement, les préliminaires avec une meuf me dérangent pas du tout.
Ouais.
Et elle me dit, est-ce que. Je lui ai dit, j'ai jamais pénétré de nana à moi, tu sais, c'est pas trop mon truc et tout. Et elle me dit très gentiment, est-ce que ça te dit là d'essayer, tu vois. Et j'étais là, oh wow, super opportunité. Oh, et j'étais là, franchement, je sais même pas si je vais bander. Hein, donc, si je débande, tu vois, en plus, mettre la capote et tout. Finalement, je bandais.
Oh.
Et elle est rentrée et ça s'est passé en une fraction de seconde. Et j'étais en mode, ah, ça y est, c'est tout.
C'est tout.
Genre, c'est hyper large en fait.
Ah ouais, bah oui, c'est beaucoup plus large qu'un anus.
Ouais, et j'étais en mode, ah en fait, on est même pas, parce que je commençais à débander, mais ça restait dedans.
Ouais.
Et du coup, j'étais en mode, ah, on est même pas obligé en fait de bander, parce que pour rentrer dans un cul, faut bander très dur. Enfin, tu vois, bah oui, sinon, du coup, ça demande d'être vraiment vigoureux. Et là, j'avais l'impression, et elle était hyper déçue, parce qu'elle était sur moi, elle était en mode, t'aimes bien, j'étais je sens rien en fait.
Ouais.
Enfin, et du coup, elle commençait à se faire des frottements et tout, j'étais là, je pense qu'on va arrêter ici.
Ouais.
Merci beaucoup. Mais. J'ai pas trop vu l'intérêt.
L'intérêt.
Ouais. Ouais. Après, elle venait de baiser avec son mec devant, donc peut-être qu'elle était plus dilatée que d'habitude. Mais en tout cas, je suis très content.
Je pense que c'est plus grand une chatte qu'un cul. Hein.
Écoute, en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression que c'était comme rentrer dans une bouche. Enfin, je sais pas comment dire.
Oui, oui, bah, il y a de ça. Bah, je pense que c'est ça. Hein.
Et
sauf au tout début, normalement, en fait.
Et je savais pas que c'était aussi rapproché des fesses.
Ah si, c'est tout près, tout proche des fesses.
Ah ouais, parce qu'au début...
Tu peux te tromper, ouais. Oui, tu peux vite rentrer dans les fesses.
Au début, j'allais vraiment trop haut, genre vers le clito, je pense. Enfin,
Ouais.
Et du coup, ça rentrait pas, et non, du coup, elle a pris ma bite. Ouais. Et la bite, c'est c'est vachement proche des fesses.
Ouais, c'est juste à côté des fesses. Mais en fait, normalement, au début, il y a un petit... Normalement, tu dois sentir que c'est un peu serré, même si c'est humidifié, mais doit y avoir un petit glout. Et ensuite, quand t'es dedans, c'est...
J'ai vraiment senti tout de suite...
Peut-être qu'elle était un peu dilatée si elle venait de se faire ken avant.
La grotte de Lascaux, quoi.
Ah, merde.
J'ai pas vu les peintures rupestres, mais je suis pas resté assez longtemps. Et je voyais qu'elle était vraiment déçue, et j'étais trop déçue pour elle aussi. J'avais envie de kiffer, de la faire kiffer.
Ouais, mais bon, attends, la meuf, elle a de l'ego aussi. T'es pas obligé de convertir des gays, t'imagines.
Dit, écoute,
c'est là qu'elle te dit
déjà...
qu'elle travaille pour l'église et tout. Je voulais vous remettre dans le droit chemin.
Et là, tu sais, t'imagines, dès que tu pénètes, ça fait... La révélation.
Il revient parmi
nous. Et en fait, je lui ai dit, écoute, déjà, t'as été la seule meuf, la première meuf avec qui j'ai perdu ma virginité hétéro, quoi.
Ouais.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose.
Ouais.
Mais est-ce que t'as trouvé ça beau, une shot, ou pas?
Moi, je trouve ça plutôt beau.
Ouais.
Après, elles sont toutes différentes, comme les bites. Hein. T'en as des belles et t'en as des moins belles. Mais je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, les cunis.
Ouais.
C'est trop drôle.
Tu l'as fait un cuni?
Il paraît que je suis très douée.
Oh.
Parce que vu que je suis pas dans le plaisir de moi, tu sais, genre, je suis dédié à 100%.
Ah bah
et je sais qu'il faut être très doux et que, comme j'ai plein de potes meufs, elles me racontent ce qu'elles aiment et tout, du coup, je glane ces informations et donc je sais ce qu'il faut faire.
Mais ça, c'est ouf quand même que tu sois pas dégoûté par le cuni. C'est peut-être.
Bah après, je pourrais pas le faire en one-to-one s'il y avait une meuf.
Ah ouais,
à moins que ce soit genre juste pour rigoler et qu'on n'est pas du tout dans un truc sexuel, tu vois, qu'on déconnecte. Ouais, comment faire un cuni sans que ce soit sexuel, je sais pas. Mais
je pense à cuni qui fait rigoler.
Non, mais
le cuni s'arrête pour la rigolade.
Mais en tout cas, s'il y a un mec qui m'excite et que je dois faire un cuni pour arriver jusqu'au mec, ça me dérange pas du tout.
Ouais.
Tu
Putain, t'es prêt à beaucoup de waouh.
Ouais. Mais je trouve les filles très belles. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé les filles.
Et moi aussi, je trouve les filles très belles, mais je leur lécher la chatte. Bon, écoute, peut-être un jour, mais a priori.
Franchement, c'est marrant quand je préfère.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lécher une chatte que de pénétrer une nana. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
je sais pas.
Après, tu tomberas peut-être une prochaine fois sur un vagin plus serré, tu vas kiffer. Hein.
Ouais, je sais pas si je le referais.
Ouais.
Mais c'était vraiment une expérience que tu vois, je suis arrivé à 30 ans, je l'avais jamais fait.
Ouais, là, t'auras tout fait.
Pas encore tout.
Pas tout?
Mais non. Bah, j'ai fait jusqu'à 16 personnes et 17, j'aimerais bien quand même. Je rigole.
Putain, et moi aussi, il faut que j'apprenne à lécher des anus. Mais c'est vrai.
Ah,
que
tu fais pas ?
Bah, on me l'a fait et moi je l'ai pas. Mais non, mais tu sais que j'ai pas trouvé de gars qui était d'accord pour que je lui fasse.
Mais moi, enfin, je m'approche. Ça, mais... c'est ce que je préfère au monde.
À chaque fois, quand je m'approche, c'est les gars, ils ferment leurs fesses comme ça tellement ils sont terrifiés.
Bah oui, mais ils ont pas l'habitude.
Ils ont pas l'habitude. Ouais. Mais comment tu peux être sûr qu'il y a pas du caca ?
Ah, ben non, mais.
Tu ne le sais jamais. Après, et là, c'est dans la langue, quoi.
Ouais. Après, il y a rarement du caca
à la sortie,
ou alors il est vraiment pas propre, le gars, tu vois. Mais il y a toujours une espèce d'odeur qui est indescriptible, qui est une odeur de cul, mais qui est assez excitante, en fait, remplie de phéromones et trucs. Mmh. Et c'est moi, j'adore bouffer un cul, j'adore me faire bouffer le cul. Et il y a un truc qui se passe, c'est que bah, déjà, en général, tu as un peu pris une douche ou tu sais que tu passes vite fait à la salle de bain, tu vois, tu te prépares quand tu sais que... Et si t'as pas le temps, bah, l'autre il le sait aussi en général. Hein, quand tu rentres de soirée, que t'es un peu bourré, l'autre il sait ce qu'il attend. Ouais. Et soit il décide d'y aller, soit il te dit bah, si tu veux aller dans la salle de bain, tu peux. Tu vois.
Oui, mais, voilà, un petit coup de douche, un petit coup d'eau.
Et le matin, parce que parfois il y en a comme ça, le matin, t'es pas sale, enfin, t'es pas censé être chier dessus la nuit, ou alors t'as un des problèmes gastriques, mais. tu vois. Mais une couche. Mais non, c'est. Mais chez les mecs, alors moi ce que j'aimerais pas trop, je pense, chez les mecs hétéros, c'est que ça doit être un peu poilu, parce qu'en général tu t'étiles pas trop.
Ils sont poilus de l'anus, les mecs hétéros.
Et du coup, là je me dis, le poil, il doit y rester un peu de caca quand même.
Bah, bien sûr, parce que oui, moi peut-être.
C'est vrai que j'aime bien quand c'est imberbe, mais c'est un kiff à moi. Je sais qu'il y a des mecs qui adorent quand c'est poilu, ils adorent bouffer un cul poilu. Ouais. Après, franchement, ça va dans les dents et tout, c'est chiant.
Ah ouais, non, franchement,
je vais t'enlever un poil de cul des dents, ça prend 1000 ans.
Ah mais c'est sûr qu'il y a des poils. Bah oui, moi je trouverais ça plus facile de lécher un cul de gay tout bien épilé, tout mignon, tout propre, tout rose, tout hydraté. Alors qu'un cul d'hétéro, c'est poilu, il y a des petits boutons, ils mettent pas de crème, les hétéros. Hein.
Bah non, je sais. Ils
se mettent pas de crème sur le visage. Ils se démaquillent pas la fin de journée. Ils enlèvent pas. Ils ont pas de. Non, rien.
Ah ouais, je sais. C'est vraiment une espèce à part.
Ouais. Il y en a quelques-uns qui finissent par capter, mais c'est marrant. Moi, quand j'essaie de mettre de la crème hydratante, un gars, il est en mode.
Tu fais très bien l'homme hétéro réfractaire à la crème hydratante.
Après, au final, ils s'en sortent plutôt pas mal. C'est là qu'on se dit finalement que c'est bien foutu le business des cosmétiques, parce que parfois, t'as des mecs hétéros qui ont une belle peau, se sont jamais rien foutu de leur vie dessus.
Ah ouais,
on se fait chier. On dépense des fortunes. Mais après, c'est agréable aussi.
Ouais.
C'est
quand ça sent bon un peu, la rose là. Maintenant, j'ai appris qu'il fallait. Je ne le faisais pas de me laver le visage le soir.
Ouais.
J'avais toute ma routine le matin.
Ouais.
Mais le soir, en général, je me démaquille si j'ai joué et que j'ai mis du make-up. Mais après, je ne me lavais pas et je ne mettais pas de crème. Maintenant, je le fais. Du coup, je me couche avec ma crème un peu à l'eau de rose et tout. J'ai l'impression d'être Cendrillon.
Ah ouais, ta crème de
nuit. Puis après, je me tourne et il y a une tache de sperme sur l'oreiller. Je peux dire que je suis pas Cendrillon longtemps. Mais je me dis...
Oh putain, attends.
On parle.
Il faut que je passe au questionnaire de Proust.
Vas-y.
J'adore discuter avec toi, pardon. Ça s'est transformé aussi en genre, viens, juste on prend un café. Dommage qu'il n'y ait pas des mojitos.
J'espère que ce sera intéressant pour les gens, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une discussion...
C'est les meilleurs. En fait, les gens, ils s'ennuient quand c'est trop style interview.
Ok.
Quand c'est questions-réponses.
Ok, parce que là, j'avoue que j'ai complètement oublié qu'on était dans un podcast.
Mais non, mais c'était parfait.
D'ailleurs, si mes parents, parce qu'ils écoutent tout ce que je fais, ils vont être là. Tu as pénétré une femme, donc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça va leur donner peut-être... Tu penses qu'ils vont être vénères?
Non, jamais de la vie, mais ils vont être en mode... Ah d'accord, très bien. Bon. Finalement, pas si gay que ça, le petit.
C'est ouf. Bah ouais, aujourd'hui...
Après, ils ont vu le spectacle.
Je te tiendrai au courant la prochaine fois que je lèche un anus ou que je mets un...
Ah ouais,
j'ai très envie de le faire.
Mais les mecs, ils kiffent. Hein.
Mais oui.
Franchement, faut juste que...
Je vais bien hydrater.
Voilà, faut juste abolir cette frontière. Ouais. Mais une fois que ça y est, en général, ils kiffent.
Après, je pense que si je le fais et que ça se passe bien, ça sera à chaque fois. Il y aura plus de fellation sans doigt.
Bah oui. Non,
je pense que ensuite, c'est un cap. Mais après, c'est une manière de retenir le mec. Parce qu'ensuite, il ne trouvera pas, tu vois, je pense qu'il va te tromper.
Puis une fois que ton doigt dans son cul, il ne peut pas aller nulle part. Donc, hep, reviens par ici.
Tu le crochettes.
Le questionnaire de Proust. Ouais. Alors ça, c'est toujours un truc où je suis nul parce que je réponds des trucs. Après, je rentre chez moi, je me dis, putain, j'aurais pas dû répondre ça. Donc vraiment...
C'est marrant parce que je tombe sur des questions qui sont pas des questions du questionnaire de Proust, qui sont des questions que j'avais écrites au tout début, avant même de lancer le podcast, où je m'étais dit des questions au cas où à poser. Okay. J'avais écrit, au fait, es-tu circoncis?
Ha 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 ha! Que dit Proust de cette question?
Que c'est ma mère qui l'a écrite à ma place, clairement. Ah, es-tu fidèle en couple? Bonne question, compliquée. Hein.
Non. Je me rêve fidèle et j'ai vraiment cette volonté au début de la relation de me dire tu vas être fidèle parce que cette fois t'es une bonne personne en fait. Et en fait pas du tout. Et je pense qu'il faut accepter ça et être juste honnête au début de la relation et dire aux gens écoute voilà moi je suis rarement fidèle, alors ça a duré peut-être un temps, mais après j'ai un besoin, un appétit sexuel. Moi je tombe amoureux, franchement là encore en venant. Toi-même, il y a un mec qui est rentré dans le studio d'enregistrement, j'ai eu des sentiments en fait. Donc je tombe très facilement amoureux et quand je tombe amoureux, j'ai envie d'un rapport sexuel. Donc j'ai du mal à la fidélité. Mais je suis aussi rarement en couple, donc heureusement.
C'est quoi le max que t'as fait de fidélité en couple en termes de temps?
Un an.
Ah, quand même?
Ouais, quand même. Ouais.
Un an sans bisous en boîte à personne?
Oui. T'es vraiment une salope. Est-ce qu'il y a une autre question au questionnaire de Proust?
Attends, je passe au vrai questionnaire de Proust.
Alors... Peut-être un peu moins d'un an, ok.
La qualité que tu préfères chez un homme?
L'humour.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'humour.
Le principal trait de ton caractère?
La fidélité, mais non, laisse-moi m'expliquer. En amitié, moi je suis quelqu'un de très... J'ai confiance de mon ambivalence. Non, laisse-moi... Rigole. Non, je suis très très fidèle en amitié. Et je vis très mal l'infidélité en amitié. C'est-à-dire que moi, quand j'accorde ma confiance aux gens et mon envie d'être ami avec quelqu'un, c'est ad vitam aeternam. Mais par contre... J'attends en retour la même chose. Et j'ai vraiment... Enfin, je vis très mal, par exemple. C'est bête, mais si on me répond pas pendant 3 semaines, ou si on m'annule, ou si on me propose un truc, puis après, non, désolé, finalement. Je vis très mal les trahisons dans l'amitié, parce que moi, je suis quelqu'un de très constant dans l'amitié. Mais par contre, dès qu'on va me faire une crasse, je vais vraiment être très déçu. Donc j'attends vraiment... Ouais, je suis très fidèle en amitié.
Ton principal défaut, Jesse?
Impatient.
Ton occupation préférée? À part lécher des anus.
Jouer à Fortnite.
Ton idée du bonheur.
À part lécher des anus. C'est vrai que ça arrive juste après Fortnite. Si je peux jouer à Fortnite en léchant un anus.
Et en te faisant lécher un anus.
Lécher, parce que j'ai plusieurs anus. Bah, en te faisant lécher un anus. Un de mes différents anus. Tu choisis celui qui te fait plaisir. J'en ai 4. Donc.
4 comme tous les bords politiques.
C'était quoi l'autre question?
Ton idée du bonheur.
Mon idée du bonheur, être entouré de mes amis sur une plage et à raconter des conneries autour d'un feu de camp. C'est cheesy as fuck. Putain, c'est pour ça que je t'ai dit que je suis nul dans ces trucs. Où je vais rentrer chez moi et je vais être là, putain, t'as répondu ça, mais n'importe quoi, t'es vraiment une pauvre meuf.
T'es une ado, quoi.
Ah ouais, c'est chaud.
Il manquait plus que les
marches. En écoutant Taylor Swift, en fait.
Quel serait ton plus grand malheur?
La perte de ma famille. Tout de suite, hyper deep. Je te dis, je suis fou, en fait. Je suis complètement bipo.
Tu switches hyper rapidement. Oh merde, et moi je renverse de l'eau partout. Où aimerais-tu vivre, Jesse?
Paris, ça me va très bien. Alors, si possible, dans un plus grand appartement et avoir un extérieur. Ça, c'est un fantasme absolu.
Une terrasse, un jardin?
Avoir un petit jardin, parce que j'ai vraiment la main verte. Ouais, j'adorerais.
Un petit fantasme à 10 millions d'euros.
C'est ça. Donc, il faut vraiment que le spectacle fonctionne. Allez voir le spectacle.
Ah ouais, putain, là, allez voir le spectacle. Ce que tu détestes par-dessus tout?
Les gens incivils dans les lieux publics.
Ah ouais.
Putain, en fait, je suis un boomer.
Non, mais t'as pas...
Ouais.
Non,
ah ouais, ça peut me rendre fou. Ça peut me rendre fou.
Moi, c'est l'impolitesse, ce que je
dis. Les gens vraiment impolis, que ce soit dans une salle de théâtre, au cinéma, dans la rue, dans les transports en commun, c'est qu'ils n'ont pas conscience de l'autre.
Ouais.
Qui ont vraiment... C'est, tu vois, la musique forte, ou même en loge, des humoristes qui regardent des vidéos en loge.
Avec le son.
Avec le son. Comme ça,
et
à aucun moment en plus ils se disent que ça peut. J'adore ça, d'avoir une telle confiance
telle
en
confiance.
Soi pour ne même pas avoir l'impression de déranger. Moi, à peine mon portable fait une sonnerie, je suis en mode oh, désolé, pardon, je le coupe, je m'excuse 30 fois. Donc ça m'agace.
Comment aimerais-tu mourir?
J'aimerais mourir sur scène. Comment j'aimerais mourir? Bah, je crois entouré des gens que j'aime. Ouais. Surtout, enfin, c'est terrible d'être, de mourir et d'être entouré que par des hypocrites ou des gens qui ont voulu ton malheur, tu sais. Ça voudrait vraiment dire que t'as pas réussi. Ah ouais. Tu sais, comme, c'est, comme tous ces grands destins qui sont morts jeunes, entourés de gens qui leur avaient pris tout leur fric.
Et
tu vois, ça, c'est vraiment pour moi la mort, la pire. Alors, j'ai pas d'argent et j'ai pas de succès, donc pour l'instant, Dieu m'en préserve.
T'as du succès.
Mais, oh, merci.
T'as un peu d'argent.
Un peu, ouais, voilà, très peu.
Ouais. Mais, pas assez pour notre train de vie.
Pas ça, assez pour un jardin à Paris. Et donc ouais, je crois entourer des gens qui m'aiment, ouais.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel?
Alors, c'est une bonne question qui mérite un peu juste une réflexion, mais je crois que ça irait sur un peu de stress d'y arriver, de se dire est-ce que ce spectacle va marcher, est-ce qu'il va rencontrer le succès que je lui souhaite, et est-ce que les gens vont l'aimer, et à travers ce spectacle vont m'aimer. Et donc ça, c'est l'état d'esprit. Et sinon, quand même reconnaissant d'être arrivé quand même à faire vivre ce spectacle jusqu'ici, et s'il devait s'arrêter demain, je serais très content.
Grateful.
Ouais,
peaceful,
c'est ça.
Mind.
Ça arrive en deux. En premier, c'est stressful.
Et en deux, grateful.
Mais ouais, voilà.
Merci, Jesse.
Non, merci à toi, c'était trop cool.
Oh, oui.
Et voilà, c'était Jesse. J'espère que vous avez bien rigolé avec nous, que le naturel de Jesse vous a touché et donné envie d'aller voir son spectacle. Je tiens à rappeler par ego que parfois j'ai de vraies standing ovations à la fin de mon spectacle, que je ne réclame pas. Les gens se lèvent d'eux-mêmes, comme à Bruxelles la semaine passée. Et les gens ont dansé, et à ce moment-là, mon cœur évidemment devient toujours coulis de framboise. À très vite, je vous embrasse.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.